les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Paris n'est pas Kingston, et pas plus qu'aujourd'hui. En 1981, on ne pouvait confondre le 18e arrondissement avec Trenchtown, le quartier ghetto de la capitale jamaïcaine, berceau de la musique de Bob Marley, de Peter Tosh et de Bunny Wailer. Mais c'était au rythme syncopé du reggae, mais aussi au son de la musique traditionnelle du Cambodge et de celle de la Casamance de Touré Kounda, que se terminait la série documentaire des Nuits Magnétiques consacrée au ghetto en 1981. Ghetto, au regard des faubourgs de Johannesburg, des bidonvilles de Bombay, de ceux du Kenya ou de Madagascar, le mot paraît fort pour évoquer ce qu'étaient les quartiers des immigrés dans le Paris d'il y a 30 ou 40 ans. Mais même scandé sur les rythmes de l'Afrique et des Caraïbes des rives de la Seine, à mille lieues des plus grands quartiers de misère de la planète, le mot ghetto dit encore quelque chose de la solitude des exilés et des plus pauvres d'ici et d'ailleurs.
Bonsoir. Les ghettos, Josette Collin, Marie-Joséphine Grosjean. Ce soir, les musiciens du ghetto. Le ghetto, ce n'est pas seulement la misère et l'exclusion. C'est aussi une superbe énergie et une créativité qui, dans le meilleur des cas, explose dans quelque chose d'essentiel, la musique. Angelica la Gitane nous a chanté à cru une chanson tzigane. Les fils de Pierre jouent de la guitare instinctivement. Les Cambodgiens, réfugiés politiques, ont sauvé leurs instruments et jouent dans les occasions de fête. Les immigrés des foyers ont aussi leurs poètes musiciens venus de leur pays. Nous avons fait venir dans les studios deux jeunes groupes de musiciens reggae du ghetto, Ghetto Tribe et Ras Negus. Ils vont nous raconter comment on peut faire entendre sa musique quand on vit dans le ghetto. Tous ces groupes, professionnels ou non, font une musique qui arrache. Pour eux, la musique est une arme de la survie. C'est une respiration vitale pour en sortir du ghetto. Et ce message qu'ils nous donnent, pour nous aussi, il est vital.
C'est bon là.
Autour de nous, Ghetto Tribe, la tribu du ghetto. Alors, ce sont tous de grands garçons. Ce qui m'a frappé quand je les ai vus arriver, c'est qu'ils ont à peu près tous la même taille, c'est-à-dire environ 1m80, des cheveux, des locks, des longs cheveux. Puis ils ont l'air très décidés. On va les écouter parler. Alors, on va commencer par le chef du groupe, parce que comme dans tout groupe, il y a un leader. Ça fait moins dur quand on le dit en anglais.
Oui. C'est plus cool.
Alors, tu te présentes ?
Ouais, moi, je m'appelle Ahmed, je suis de la tribu de Hacha. Je suis d'origine africaine, je suis africain même, du Sénégal, du Dahomey, de la Côte d'Ivoire. Et je suis en France depuis un certain temps, je suis du ghetto et je joue avec les Ghetto Tribe.
Bon, moi, je m'appelle Soya, je suis de la Martinique. Je suis percussionniste d'un Ghetto Tribe. Et j'ai connu Ghetto Tribe dans les débuts. C'est-à-dire que...
Moi, je m'appelle Levy, ou de la tribu de Levy, Dominique. Je suis Guyanais, Guyane française. Et je suis batteur du groupe depuis sa création.
Eh bien, je me prénomme Abel. Je suis le... Peaceman, celui qui joue de la basse. Et je suis d'origine guinéenne. Ma tribu, je pense hein, que c'est...
Ruben. Moi, c'est Alan. Voilà. Tribu de Dan. Je suis de Côte d'Ivoire, exactement. J'ai connu le groupe en même temps que tout le monde. Ça s'est formé il y a un an à peu près.
Oui, il faut préciser que tous les musiciens ici présents sont dans le groupe depuis l'origine. Il n'y a pas eu de transformation.
Il y a combien de temps ?
Un an.
Un peu plus d'un an que vous jouez et que vous...
On travaille et ensemble et qu'on vit ensemble aussi.
Et que vous vivez ensemble.
Oui,
que
on respire le même air quelquefois.
Ouais.
On est tous ensemble.
Surtout.
Yeah. À l'origine, comment vous vous êtes rencontrés?
C'est-à-dire que, disons qu'il y a eu une espèce de fusion. Il y avait déjà d'un côté, excusez-moi l'expression, les Africains. C'est-à-dire Alan, Abel et moi, qui faisaient de la musique. Et on avait l'habitude de buffer ensemble. Et d'un
où
autre
ça
côté, à Paris.
Oui.
Et d'un autre côté, il y avait Soya, Dominique, qui eux étaient à Créteil. Et qui eux aussi avaient un groupe. Et puis, mais comme on a vu qu'on avait le même feeling et qu'on se complétait, on s'est dit, mais pourquoi pas?
C'est-à-dire que les musiciens manquant d'un groupe à l'autre, ça se complétait très bien. Donc on a décidé de faire la création du premier groupe qui s'appelait les Rastafarian. Et ensuite, on a laissé tomber le groupe parce qu'il y avait trop de monde.
De rigolos aussi.
Si aussi de rigolos.
Alors, vous vous êtes appelé directement Ghetto Tribe.
Ghetto Tribe.
Ghetto Tribe.
Alors,
yeah.
Ghetto Tribe, oui, tu t'es pas présenté.
Et moi, je m'appelle Sheriff. Je suis un Africain aussi, comme mes amis. Et moi, je peux pas dire beaucoup de choses. C'est l'aventure qui m'a poussé dans la musique, c'est tout.
Et tu joues quoi ?
Je joue l'orgue.
D'accord. Alors, on revenait à l'origine de Ghetto Tribe. Ghetto Tribe, pourquoi ce nom ? La tribu du ghetto.
Ben, c'est tout simple, c'est parce que bon, nous vivons tous dans le ghetto et que nous avons tous un esprit ghetto. Et que, bon, mais c'était ça pour
non, c'est pas,
c'est, non, c'est pas tout à fait. Ça,
mais
c'est
l'explication tous,
c'est non, l'explication
de dire, nous vivons tous dans le ghetto.
Ouais, ça, c'est l'explication trop simple des choses.
Il faut, d'abord, c'est bien beau, d'accord, que le thème, c'est le ghetto. Il faut savoir ce que c'est.
Et voilà.
Enfin, y a, moi, on est combien ici ? Je mangerai tous les points. On est peut-être, je sais pas moi, 5-6 personnes et il y a 5-6 visions déjà sur le ghetto. Le ghetto, c'est pas dans le dictionnaire ou bien on va donner une définition très truc. Quand on dit qu'on habite dans le ghetto, bah, je sais pas, il faut.
Papa, t'as pas sur la table.
Est-ce que tu peux donner ta définition du ghetto ?
Ma définition du ghetto. Je veux dire, bon, il y a des artistes du genre George Benson, ils font pas de reggae. Lui, il a interprété un morceau qui s'appelait « The world is a ghetto ». Et en fait, moi, je pense que chaque personne a déjà son propre ghetto dans sa tête, ses propres limitations. Et certains se plaisent à dire qu'il y a des ghettos d'intellectuels, il y a des ghettos de ci, il y a des ghettos de ça. Pour moi, le ghetto, c'est je veux dire...
De toute façon...
Un endroit où on se sent... enfin, une aire d'action, un endroit, une aire d'action, on se sent contraint d'y être. Une espèce de limite
à la liberté,
une certaine expansion personnelle, à certaines réussites sociales personnelles, certains trucs, quoi.
Baby. Or were you your boyfriend around the night? You sure look good to me. Swear I'd like to carry you home. Lord, I could love you a while tonight. Lord, have mercy.
Tout à l'heure, quand je disais qu'on vivait dans le ghetto, bon, c'était aussi une façon imagée de parler. Bon, parce qu'il y a les ghettos d'habitation. Effectivement, nous ne vivons pas dans les ghettos d'habitation.
Mais
nous
sommes où ?
Bon, dans le 18e. Bon, et dans la zone de Strasbourg-Saint-Denis, qui sont quand même des zones populaires, des zones à concentration d'émigrés. Donc déjà, qui forment un certain ghetto. Parce qu'il y a des limites qui nous sont imposées. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut et on est obligé de s'organiser à l'intérieur de ce ghetto.
Alors, vous vivez donc ensemble ?
Oui, ouais, ensemble.
On est pratiquement
la plupart
tout
du temps, tout le temps ensemble.
Alors, la musique, pour vous, c'est quelque chose qui est venu comment, cette idée de faire de la musique ?
C'est-à-dire que déjà, on est tous africains, quoi, entre parenthèses. Donc le rythme musical, c'est inné chez nous et automatiquement, quand on vit ensemble, on arrive toujours à cette partie musicale où la création de chacun compte beaucoup. Et c'est-à-dire quand on se retrouve le soir, tout ça, toute la journée, on a des guitares, on crée ensemble comme ça.
Et vous avez décidé de devenir un groupe professionnel, c'est-à-dire de faire de la musique pour être entendu et pour être joué.
Oui. Mais je n'aime pas le terme
professionnel. Moi, je n'aime pas le terme non plus.
Je n'aime pas le terme professionnel.
C'est pas professionnel.
C'est nous, une profession. On joue pour satisfaire les frères, c'est tout.
Voilà.
Il y a beaucoup de frères qui aiment nous écouter et on aime les voir aussi.
Oui, bon, moi, je voudrais préciser quelque chose quand même. C'est-à-dire que, bon, effectivement, actuellement, bon, on a fait de la musique notre principal fer de lance. Bon, la majorité d'entre nous, certains étaient étudiants, des étudiants modèles. Et il s'est trouvé qu'on s'est lancé, enfin étudiant modèle, je prends un schéma, hein. Je dis pas bon étudiant, je dis étudiant modèle, c'est-à-dire bon, qui va à l'école comme ça.
C'est-à-dire que, ouais.
Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus. Bref, on était tous plus ou moins étudiants. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une foi qui a intervenu, qui est la foi Rasta. Parce que moi, en ce qui me concerne personnellement, je crois que si je n'étais pas devenu Rasta, ben j'aurais continué à faire de la musique comme avant, mais je n'en aurais pas fait mon fer de lance.
C'est-à-dire comme avant.
Mais avant, ben je faisais la musique parce que j'aimais ça, je jouais chez moi, je buvais avec les amis, je vivais dans une ambiance musicale. Mais là, si j'en fais mon fer de lance, c'est parce que on a un message à passer et que il faut le passer coûte que coûte.
Alors ce message Rasta. Comment vous voulez le faire passer? Comment vous travaillez? Comment vous le portez?
Bon, le message Rasta, au départ, il est très simple. C'est d'abord, avant tout, un message d'amour et de liberté. Bon, ce message est conditionné maintenant.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde. Oui.
Ouais,
et qui s'adresse à tout le monde. C'est un message universel. Bon. Maintenant, ce message est conditionné par une certaine foi. C'est-à-dire que pour nous autres Rasta, le monde tel qu'il existe actuellement touche à sa fin. Il y aura une nouvelle répartition, il y aura beaucoup de changements. Et il faut que les gens se préparent à ce changement. Principalement les peuplades opprimées. Et donc, c'est pour annoncer ce changement que nous jouons. Et je crois que ça a son importance parce que, bon, on peut vouloir passer... Les messages d'amour, de liberté, de justice sont des thèmes millénaires, je dirais, qui ont toujours été repris. Et je crois que chez nous, c'est ce qui fait notre originalité, comme à tous les Rasta, c'est qu'il y a une foi derrière, une foi qui est vivante.
Tout à l'heure, vous parliez, les uns et les autres, d'appartenir l'un à la tribu d'Achar, l'autre à la tribu de Dan, l'autre à la tribu de Joseph. Est-ce que vous rattachez la foi Rasta à cette appartenance à des tribus? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Toute cette histoire de tribus, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible, justement.
Les 12 tribus d'Israël.
Les 12 tribus d'Israël. Comme au départ... Au départ, on estime quand même qu'il y avait peut-être 12 tribus quand même. Alors, chacun appartient à une certaine lignée donnée. On n'appartient pas comme ça, on n'est pas là comme ça, n'importe comment. Il faut quand même savoir quand même d'où on vient et tout et tout.
Voilà. Et l'appartenance aux tribus est fonction du mois de naissance. Ouais. Et je voudrais préciser ceci, c'est que les Rasta, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est une religion qui tire ses sources dans le judaïsme et donc qui utilise la Bible comme tout. Donc, plus particulièrement l'Ancien Testament. Et tous ceux qui connaissent la Bible savent que, bon, il y a eu les 12 tribus d'Israël et donc qui s'étalent, qui font les 12 mois de l'année. Donc, en fonction de la naissance, on appartient à telle ou telle tribu. Mais tout ça fait partie, si vous voulez, du mythe religieux. Bon, le reggae est né. Il est né avec les Rasta. Bon, les conditions en Jamaïque ont favorisé le développement du mouvement Rasta en Jamaïque. Mais ce mouvement, quand même, tire ses sources profondes en Afrique. Même le reggae, qui est un mélange de différentes musiques. Mm-hmm. Et donc, le reggae, il y a de différentes manières de l'aborder. Le reggae, avant tout, c'est une prière. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue du reggae, sans vraiment avoir la foi, n'aura pas de punch. Il va jouer quelque chose de plat musicalement. Le reggae, c'est quelque chose qui sort des tripes. Vous nous demandez notre originalité. Je crois que notre originalité, c'est que justement, nous, on joue du reggae, mais je dirais plutôt du reggae africanisé. Parce que nous tirons la majorité de nos sources en Afrique.
Les percus. Allez-y, Abel, on fait ancestors.
Ouais, ouais, d'accord.
Les percus. Ouais.
Commencez en roots.
Ça commence en roots. Alan, tape roots.
Qu'est-ce que vous chantez? Quelles sont les paroles? Vous écrivez vos chansons?
Oui.
Oui.
Ben, nous chantons en fait la vie de tous les jours. Nous chantons l'oppression. Nous chantons la rébellion. Parce qu'il y en a marre maintenant de chaque fois se lamenter. Et je crois que c'est une des différences aussi que nous avons par rapport au Rasta, disons, jamaïcain. C'est que, bon, nous, bon, les lamentations, c'est bon, il y en a eu depuis des générations. Maintenant, il faut bouger. Et nous, ce que nous essayons de faire passer, c'est justement, il faut que les gens s'organisent, il faut que les gens prennent conscience que c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Il n'y a rien à attendre que tout tombe rôti du ciel.
C'est ça.
C'est en fait ça que nous essayons de faire passer à travers nos chansons.
Et pourquoi vous chantez en anglais?
Mais c'est très simple.
C'est comme si on chantait une chanson africaine en turc, ça n'irait pas. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, à l'origine, le reggae est créé sur l'anglais.
Ça va bien
sur
avec l'anglais déjà, et puis il y a beaucoup de personnes qui chantent en anglais, qui parlent en anglais.
Qui parlent en anglais dans le monde, ouais.
Et de toute façon, étant donné que c'est un message qu'on passe, la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Et je crois que c'est avec cette langue qu'on peut toucher le plus de personnes. Puisque même en Afrique, dans les pays francophones, la majorité des gens comprennent quand même anglais.
Ça, je crois qu'au niveau des paroles, il y a... a priori, je vois deux personnes. J'ai Burning Spear, Bob Marley, qui ont vraiment chauffé le cerveau des gens.
Et je crois que tu te laisses influencer par le fait que, comme il le disait, autour de Bob Marley, de Burning Spear, il y a eu beaucoup de publicité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait de Bob Marley...
Ça dénature pas la valeur de ce qu'ils disent.
Autour, voilà ce qui se passe. Ouais, dans la façon dont tu présentes les choses...
Quelle publicité tu as vu autour de Burning Spear,
attends,
par exemple?
Justement, là, elle commence. Je vais t'expliquer. Voilà comment on est en train de synthétiser les choses. C'est-à-dire que Bob Marley, il représente le fer de lance. Celui qui a popularisé le reggae. Et Burning Spear représente la conscience. Et avec cette image, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, au niveau des textes, excuse-moi, quand tu prends Third World, quand tu prends. Comment il s'appelle le groupe londonien là ?
Steel Pulse.
Et tout, mais il y a au niveau des paroles, je crois que tout musicien de reggae, c'est qu'il a quelque chose à sortir. Bon, Bob Marley, il a des textes qui sont puissants, c'est un fait. Burning Spear aussi, il a des textes qui sont puissants, mais ce n'est pas dans toutes ses chansons. Il y a eu quelques textes.
Burning Spear,
c'est beaucoup plus des. Dans des complaintes.
Cause when you're down and out and up, you suffer.
que vous avez déjà joué sur une scène?
Sur une scène, oui, déjà.
Où ça? Vous êtes déjà...
À Créteil.
À Créteil, oui, déjà.
Et c'était quelle expérience? C'était une bonne expérience?
C'est
une très bonne expérience. On peut sentir le contact avec les gens. Là, on peut voir si la musique qu'on produit plaît ou ne plaît pas. Et on sent très bien le contact avec le public.
Oui, et puis disons que, enfin, je crois que ce qui a joué pour nous sur Seine-Saint-Denis, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec le terme professionnel. Bon, quand on a joué à Créteil, par exemple, on était confronté à des musiciens professionnels. On a vu leur entrée sur scène, c'était vraiment du sérieux, tout était précis. Nous, on a mis un certain temps à démarrer. Bon, c'est beaucoup plus un feeling qu'on avait à offrir aux gens. Et puis, bon, ben, ça a passé.
Est-ce que vous êtes en train... Vous avez des projets?
Disons qu'on essaye de faire quelque chose. On a un projet de disque, puisqu'on a assez de chansons pour faire un album et tout. Mais disons qu'on ne veut pas non plus trop vite tomber dans un système qui va nous rendre productifs et qui enlève beaucoup du feeling. Donc, on essaye d'y aller petit à petit.
Après le ghetto d'Afrique, le ghetto d'Asie. Les Asiatiques de Paris arrivent de leur pays avec leurs poètes et leurs musiciens. Nous avons rencontré deux membres du groupe Lumière de la musique cambodgienne. Ils sont venus avec leurs instruments et vont jouer des airs de leur pays. Hier, pendant l'émission qui racontait leur vie, vous avez pu entendre le père Elorga, directeur de l'association France-Asie. France-Asie, comme d'autres associations de réfugiés politiques, se charge de trouver des familles d'hébergement et d'organiser des cours de français. Le problème de la langue étant un écueil formidable qui pousse ces réfugiés à rester entre eux et les empêche de communiquer avec l'environnement. Thank you.
Bien, c'est donc deux membres du groupe de musique La Lumière de la musique cambodgienne qui nous ont interprété ce morceau de musique traditionnelle. Les deux musiciens sont à côté de nous dans le studio. Monsieur Ker Minaret, vous êtes cambodgien et
oui.
Vous êtes à Paris depuis combien de temps ?
Depuis 79.
Et vous jouez de quel instrument ?
Moi, je joue le trohu et le kim.
Alors, ce que vous jouiez tout à l'heure, c'est du kim. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet instrument ?
Oui, je peux décrire. Le kim est un instrument de musique traditionnelle de chez nous.
C'est une sorte de sitar.
Oui, c'est une sorte de sitar frappé avec deux baguettes en bambou flexible.
Et qui vous accompagnait, le second musicien vers lequel je me tourne maintenant, comment vous appelez-vous, monsieur ?
Yu Yin.
Yu Yin, monsieur oui. Yu Yin. Et vous jouez de quel instrument ?
Yu Yin, il joue du trousseau.
Du trousseau. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le trousseau ?
Oui, le trousseau avec un archet et des cordes bien tendues.
C'est ça, c'est une sorte de violon, si on peut dire, qui se joue verticalement.
Oh oui, c'est une sorte de violon.
Oui.
Mais
dont la boîte est une noix de coco.
Non, la boîte est en bord précieux. On fait des trous. Le trohu, on fait avec la noix de coco. Le trousseau, c'est en bord troué.
Et vous êtes musicien de musique traditionnelle. Est-ce que vous avez l'habitude, la possibilité surtout de jouer à Paris, votre musique ?
Oh oui, on peut jouer à Paris.
Et quand jouez-vous ? Dans quelles occasions ?
Pendant la fête de Nouvel An. Cambodgienne et puis la fête traditionnelle, quoi.
Et pendant les mariages.
Et pendant les mariages aussi.
Est-ce que la communauté cambodgienne de Paris fait des fêtes et des mariages où vous avez l'occasion de jouer ?
Oh oui, on fait souvent pour la fête des mariages à Paris.
Donc vous êtes assez connu dans la communauté ?
Oh oui, 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 je l'ai connu.
La musique traditionnelle cambodgienne dont vous allez nous parler un petit peu aujourd'hui est une musique qui a quand même évolué depuis les origines. Est-ce que on pourrait peut-être passer d'abord un morceau de musique de mariage, c'est cela ?
Oui,
le
oui,
premier
oui,
morceau que vous
si
avez
vous
choisi.
Voulez, vous pouvez.
C'est un morceau de musique de fête plutôt.
Oui. Thank you.
C'est donc une musique de fête traditionnelle que nous venons d'entendre. Mm-hmm. Bien, alors vous allez nous interpréter un autre morceau de musique, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique?
Oui, avec plaisir.
Est-ce que vous arrivez à gagner suffisamment d'argent avec votre musique?
Ici, en France?
Oui.
Oh non.
Non, c'est-à-dire que vous avez un autre métier.
Oui.
Quel est votre métier?
Je suis monteur et câbleur en électronique.
C'est ça, mais vous jouez quand même de la musique.
Oui.
Et monsieur Yu Yin, est-il musicien à temps complet?
Oui, mais à présent, il travaille chez lui parce qu'il est vieux. Donc, il coupe des cheveux.
Ah, il est coiffeur.
Oui, il est coiffeur.
Il est coiffeur pour les Cambodgiens à domicile.
Oui, mais pour ses amis seulement. Hein.
Ah, pour ses amis.
On ne prend pas l'argent. Hein.
Vous étiez donc 8 musiciens. Où sont les autres musiciens du groupe?
Les autres musiciens qui sont toujours en Thaïlande au camp de réfugiés à Kampot, c'est-à-dire dans la province Chanbori.
Ils sont en Thaïlande?
Oui, en Thaïlande, là.
Et ils ont demandé à venir en France?
Oh oui, ils veulent bien, mais on ne peut pas faire la nécessité de parvenir en France.
Vous voulez dire que vous n'arrivez pas à les faire rentrer en France, ils n'arrivent pas à avoir leurs papiers?
Oui.
Quel morceau allez-vous nous interpréter?
Les morceaux de musique, là?
Oui.
Ah oui, on peut jouer... Pour vous écouter, c'est-à-dire la musique Trois-Pieds-Pieds, là.
Pardon?
Trois-Pieds-Pieds.
Ah, ça, je ne comprends pas du tout.
Trois-Pieds-Pieds, et vous avez entendu tout à l'heure.
Et retrouvons l'Afrique. Race Négus, un autre groupe du ghetto, venu nous parler de sa musique.
Come along, my brother, come along. Let us do the things we supposed to do for our mother. Come along, my sister, come along too. But if we should live up in the
Come Along Brothers, Come Along Brothers de Burning Spear, c'est le titre que vous avez choisi, le groupe Race Négus qui est autour de la table. Pourquoi vous avez choisi ce morceau pour vous présenter?
Je pense qu'avant tout, nous avons choisi ce morceau parce que Burning Spear, c'est un des plus grands artistes de reggae et c'est celui qui a inspiré beaucoup d'artistes de groupes, qu'ils soient anglais, jamaïcains ou autres.
Alors, autour de la table, le groupe Ras Negus, est-ce que le groupe est au complet ? Cinq...
Non. Comme disait Steve tout à l'heure là, il manque les African Ladies, ce sont les choristes et notre organiste.
Alors vous allez les présenter puisqu'ils ne sont pas là. Les choristes sont combien dans votre groupe ?
Il y a deux choristes qui sont Esther et Patricia.
Alors moi, les autres membres du groupe ?
C'est Chris.
Moi c'est Peter. Pierrot, soit disant.
Présentez Chris d'abord.
Oui, Chris n'avait pas fini.
Ouais, c'est ça.
Alors Chris, tu joues ? Qu'est-ce que tu joues dans les
Moi
groupes ?
Je suis batteur dans le groupe, quoi. Et je fais de mon mieux.
Tu chantes aussi ? On t'a entendu chanter hier.
Je chante des fois.
Oui. Il y a combien de temps que tu es dans le groupe ?
Eh bien, le groupe Ras Negus s'est formé il y a à peine un an. Et on essaie de se débrouiller pour sortir le plus vite possible.
Et avant, tu faisais de la musique déjà ?
On ne peut pas appeler ça de la musique, quoi. C'était pour s'amuser.
Oui.
Mais maintenant, on prend la chose très sérieusement, quoi.
C'est ça, vous voulez sortir.
Bien sûr.
Alors, Pierrot, Peter ?
Oui.
Tu fais quoi dans le groupe ?
Moi, je suis le bassiste. Quoi.
Tu es le bassiste du groupe. Et avant, qu'est-ce que tu faisais ?
Bon, avant, j'étais à l'école, quoi.
Tu as quel âge ?
Moi, j'ai 19 ans actuellement.
Mm-hmm.
Oui. J'étais à l'école avant, bon. Après, je me suis mis dans la musique, quoi. Et voilà.
Oui, moi, je suis Blood.
Blood.
Et le guitare rythmique.
Qu'est-ce que tu faisais avant la rythmique ? Comment tu es venu à faire partie du groupe ? Oui.
Avant, j'étais au lycée. Mais ça ne me plaisait pas. Quand je ne voulais pas rentrer dans le système qui m'aurait amené à avoir un baccalauréat éventuellement et à travailler dans un bureau ou dans le système Babylone, le système présent. Et j'ai voulu me dégager et chercher l'élévation spirituelle en appartenant à un groupe de reggae qui fait de la musique spirituelle qu'est le reggae.
Steve ?
Dis-moi, Steve. Catson.
Steve.
Yeah, no problem.
Catson.
Moi, je fais de la guitare comme Blood. Yeah, man.
Oui, Steve, il ne veut pas le dire, mais c'est le leader du groupe.
Non, il n'y a pas. Et avant, j'étais aussi au lycée, notamment j'étais à l'armée et c'était comme le lycée, c'était un mauvais système. C'était quelque chose qui me frappait sur la tête et il a fallu que je rencontre les Ras Negus pour pouvoir vraiment comprendre ce que je fais actuellement et j'en suis satisfait.
Alors aujourd'hui, le dernier à se présenter.
Oui, c'est Alan. Je suis le saxophoniste du groupe.
Il faut aussi ajouter le Benjamin.
Oui, je suis.
Ouais, quel âge ?
J'ai 17 ans. Alors moi, je suis encore au lycée. Mais j'estime, peut-être contrairement à Marcel, qui est le guitariste là, que si on doit combattre contre Babylone, il faudrait savoir aussi utiliser les armes de Babylone. C'est pourquoi aussi j'estime qu'il faut. J'essaie de continuer à travailler.
Oui, c'est ça. Chacun sa lutte.
Oui, c'est ça.
Chacun voit sa lutte de sa manière. Je peux lutter en dehors comme lui peut lutter en dedans.
De toute manière, il faut de tous les côtés. Hein,
mais notamment, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que même si Blood a abandonné l'école, il étudie seul. Il sait quelle direction il a pris. Il n'est pas là en se disant que il ne fait rien, il ne fait que de la musique. Il a beaucoup de choses à voir et à découvrir.
Chacun a une place dans ce monde qu'il doit occuper, quoi.
Justement, ce groupe s'appelle Ras Negus. Alors, vous êtes des Ras Negus, c'est-à-dire ?
Oui, le mot Ras est un dérivé de Rasta. Et Rasta, et Ras, ça vient d'Éthiopie, qui veut dire chef. On peut éventuellement dire c'est le chef d'une tribu. Et le Negus, c'est Haïlé Sélassié. Donc, c'est d'avoir une vision de cette phrase. Donc, nous, le Ras Negus, nous sommes, disons, faisons partie
Des représentants.
Mais nous représentons quoi, la marche en avant des chefs vers le mouvement spirituel et religieux. On peut voir ça dans ce sens.
C'est-à-dire que le négus est aussi une vision mystique. Le négus avait été prédit par Marcus Garvey.
Vous êtes en train de faire un disque en ce moment. Alors, un 33
déjà,
tours.
Déjà, avec... qu'on a beaucoup de mal à faire ce disque. On a des difficultés déjà. Et
avant de parler des difficultés, peut-être qu'on pourrait écouter ce que vous êtes en train de faire.
Ce que vous allez entendre, de toute façon, n'est pas travaillé à notre façon. Ça a été fait en studio il n'y a pas très longtemps et nous ne sommes pas encore satisfaits.
On va quand même là lancer la première version
de votre
futur album qui s'appelle
Dread Mama Dread Natural Dam, you see.
Dread Mama Dread Natural Dam.
Oh,
C'était la version instrumentale de Very Natural Dub, un morceau du groupe Ras Negus qui est autour de la table du studio des Nuits Magnétiques, un jeune groupe de reggae avec qui nous sommes en train de faire connaissance. Alors, comment vous vous êtes connus, puisqu'il y a un an que vous travaillez ensemble, avant vous étiez dispersés, comment vous vous êtes, le groupe s'est formé?
Bon, ça a commencé par moi. Ah ouais, yeah. Ça a commencé par moi que un jour je descendais à Paris et j'ai rencontré Steve à la gare de Sarcelles, que je le connaissais pas quoi, mais on a fait connaissance dans le train.
I play some guitar for you.
Il y a des bons souvenirs qui s'échangent.
Ah c'est cool. Alors on a pris une bonne discussion dans le train quoi. Puis j'ai par grâce à moi Steve a connu Blood. Et par la suite, on a connu Pierrot. Et on a formé.
J'ai connu Pierrot, je jouais avec lui avant.
Ah, ok.
Dans Prestige.
Ah, bon, après, on a formé. On a essayé de former. On était les quatre, quoi. Les quatre piliers du groupe, quoi. Et on a assez bossé dur, quoi.
Et peu à peu, les autres sont venus.
Ils ont lui déjà.
On a essayé de se souder ensemble, quoi.
Est-ce que vous vivez ensemble?
Non, on ne vit pas ensemble. Mais on aspire à vivre en communauté. Et je crois que bientôt, ça sera la chose possible.
Parce que c'est une bonne chose de vivre en communauté, parce qu'on se connaît mieux et on se fait déjà plus confiance, surtout si on croit en musique qu'on appelle le reggae.
Et disons que nous passons beaucoup de temps ensemble. La majeure partie du temps, nous sommes ensemble. Et disons, il se passe entre nous qu'il y a un feeling vraiment incontesté.
Que vous partagez.
Oui, Tout est toujours fait très coolement et il n'y a pas de problème.
Maintenant, c'est ça le principal. Hein. S'il n'y a pas le courant, là,
et comment
vous rien arriver à faire. Quoi.
Et comment vous arrivez à assurer financièrement?
Eh ben,
we're playing the subway, man.
Comme en français, ça te donne... on joue dans le métro, quoi.
Ah ouais, vous jouez dans le métro.
Mais beaucoup de gens ont dû nous voir déjà dans le métro, dans les différentes stations.
Comme Châtelet.
Et pour ceux qui nous ont écoutés dans le métro et qui apprécient, c'est très bon et ça nous fait plaisir. Alors si vous nous écoutez,
ça nous donne la force de continuer.
Nous sommes très très contents parce que vous nous aidez à survivre, à vivre quoi, pas à survivre.
Alors comment on passe de jouer la musique dans le métro dans des conditions difficiles?
Oui, avec le Babylone aussi qui est tout le temps, oui, la police qui est tout le temps. Et je lance aussi un message à la police. Quand vous voyez un groupe qui joue dans le métro, il ne fait pas la manche. C'est parce qu'il a des problèmes, quel qu'il soit, il a des problèmes. Et il essaie de gagner sa croûte pour pouvoir faire autre chose que flic ou... Il veut aspirer à autre chose.
I know, man.
Ok, alors à tous les policiers, je vous demande d'être un peu plus cool. Thank you.
Yeah.
Alors, on passe de la musique du métro et tout d'un coup, on arrive à faire un disque. Est-ce qu'il faut beaucoup ramer pour arriver jusque-là? Comment ça se passe, le passage?
Il y a plein de choses.
Déjà, il faut avoir confiance en soi, déjà, en ce qu'on fait. Il faut avoir un but. Et si on tient vraiment à ce but, eh bien, on arrive à toute chose.
Concrètement, comment ça s'est arrivé?
Par la rencontre d'un producteur à qui on a présenté la bande et ça lui a plu. Et de ça, quoi, on est parti au studio et c'est parti comme ça. Quoi. On a eu la chance de trouver un producteur.
Oui, il y a aussi beaucoup de chance. Quoi, et...
Sinon, parce qu'on a été rejeté plein de fois, beaucoup de fois on a été rejeté par des studios parce qu'ils trouvaient que la bande n'était pas
Polydor.
Bonne.
Ok, je le cite entre parenthèses.
Vous écrivez vos chansons?
Bien sûr.
Tous les auteurs, compositeurs, tous.
D'accord. On va écouter un autre morceau du disque. C'est Very Natural Dub du groupe Ras Negus. Thank you.
Very Natural Dub du groupe Ras Negus, en avant-première de leur prochain et premier album. Yeah. Alors, dans les deux morceaux qu'on vient d'écouter, il y a le mot natural, naturel. C'est important pour vous cette notion de naturel?
C'est fondamental. Oui. Très. Oh là
là. Fondamental.
C'est fondamental car tout ce qui est naturel est beau et tout ce qui est beau est pur et c'est naturel.
Et agréable.
Incroyable. Dans le mot naturel, c'est très important pour nous. Car même, disons, je prends l'exemple, on est en France. Et même tous les Rasta qui sont en France seront d'accord avec moi. Et même ceux qui ne sont pas Rasta. Donc, en France, ce n'est pas vraiment naturel. Si on prend une capitale, pour retrouver ce qui est naturel, il faudra aller à la campagne et méditer, par exemple, avec le bruit des oiseaux, qui est aussi une musique, le bruit de la nature. Et c'est très naturel et c'est beaucoup plus agréable.
Ce que les gens ont oublié. Les gens connaissent plus la nature maintenant.
Et c'est pour ça que vous jouez